LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Le Maghreb des ondes, un enjeu colonial. Une série documentaire de Hajar Ben Boubaker, réalisée par Thomas Duterre. Premier épisode, le mal d'archives.
Moi j'ai une famille du côté paternel qui est maghrébine, donc à la fois au Maroc et en Algérie. Donc j'ai grandi avec des histoires, des questions autour de cette période que je ne comprenais pas très bien. Et aussi, à l'école, on ne nous apprenait pas grand-chose là-dessus, donc je n'avais pas vraiment de contexte pour comprendre de quoi parlait ma grand-mère, par exemple, ou mon père.
La voix que vous entendez, c'est celle d'Arthur Assaraf. Il est historien, spécialiste de l'Algérie, et nous sommes amis. Nous sommes tous deux originaires du Maghreb, et nous avons voulu relever un pari inédit. Raconter l'histoire de la radio dans la région de nos ancêtres, elle qui n'a jamais été racontée. Pour Arthur, la radio a sauvé la vie de son grand-père.
Mon grand-père, quand il était dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été recruté au Maroc, il faisait les transmissions. Donc en fait, il faisait la radio de l'armée. Et on dit que c'est comme ça qu'il a survécu à la bataille du Monte Cassino en Italie. Que pendant les bombardements, il se cachait derrière le camion radio. Donc, il y a une appréciation familiale forte pour les techniciens radio.
Arthur est aussi l'un des seuls à avoir effectué des recherches approfondies sur ce sujet. Il sera notre fil rouge. Pour moi, c'est l'univers des anecdotes du passé, de tout un pan de ma famille, mais dont on n'a plus aucune trace. C'est un monde disparu qui nourrit encore les souvenirs de nombreuses personnes. Et cette histoire de la radio au Maghreb n'aurait pas été mise en onde si je n'avais pas découvert l'existence d'archives radiophoniques de Radio Alger, Radio Tunis et Radio Maroc, en France, à l'Institut National de l'Audiovisuel. Ces archives datent de l'époque coloniale et racontent une histoire maghrébine du XXe siècle.
En France, quand on parle du Maghreb, alors déjà, les gens vont souvent tout de suite vers l'Algérie, pas forcément vers le Maroc ou la Tunisie. Et on pense tout de suite à la guerre d'Algérie, à des grands moments politiques et à la grande histoire avec des grands hommes. Et en fait, on connaît assez mal ce que ça voulait dire de vivre à cette époque-là, de vivre dans ces pays-là. On s'intéresse assez peu à l'histoire de ces sociétés en soi. C'est souvent l'Algérie comme un problème dans l'histoire française et pas comme un endroit où en fait il y a des gens qui vivent comme tout le monde, qui naissent, qui meurent, qui ont des rêves. Donc la radio, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. La radio, c'est le premier média de masse au Maghreb qui est accessible à une majorité de la population. Sachant que la très grande majorité de la population ne sait pas lire jusqu'à assez tardivement au XXe siècle. Et c'est un accès au monde qui transforme complètement la vie des gens. Et ce qui est intéressant avec la radio, c'est que à la fois, on rentre dans le quotidien. Quand est-ce que les gens écoutaient la radio le matin? Est-ce qu'ils mettaient la musique pendant qu'ils faisaient, je sais pas, la cuisine? Et on est aussi dans de la grande histoire, parce que tous les tournants politiques qu'il y a eu, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, les indépendances, les coups d'État, tous ces moments sont des moments radiophoniques. Ce sont des moments où il y a eu un discours, une interruption de la radio, et les gens s'en souviennent. Donc souvent, en fait, quand on demande aux gens Quand est-ce que vous avez appris qu'il y a eu le coup d'État de Boumédiène en 1965 en Algérie, pour donner un exemple? Et ben en fait, les gens se souviennent, ah je me souviens que les programmes radio se sont arrêtés et qu'on passait de la musique militaire. C'est comme ça qu'on a ressenti l'événement, par la radio.
Radio Alger émet sans interruption depuis ce matin en diffusant de temps à autre la proclamation du Conseil de la Révolution. Cette proclamation
signée du chef de l'armée, diminuer les armements. De la défense, nous ne pouvons refuser à nos armées le matériel et les munitions dont elles ont besoin. Souscrivez donc aux bons d'armement où l'argent qui en provient sert à...
La radio, elle arrive au Maghreb, comme presque partout dans le monde en fait, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20. Il y a quelques expérimentations avant et pendant la Première Guerre mondiale. On a un peu de ce qu'on appelle la TSF, la télégraphie sans fil. Mais vraiment, en tant que phénomène d'écoute, c'est dans les années 20. Donc là, on a les premiers postes radio qui sont presque tous achetés par des Européens, par la population, la minorité européenne, qui donc achète des postes radio et qui, au tout début... C'est très expérimental, on écoute un peu pour s'amuser, parce que c'est drôle de pouvoir entendre des voix. Et on entend du coup surtout des programmes qui sont en Europe. On n'est pas très loin de l'Espagne, de la France, de l'Italie. Donc on arrive à capter certaines émissions en Europe.
Et pour cette soirée, patrioti, ascoltatela et fatela ascoltare. È la vostra trasmissione. Vi ricordiamo.
Ensuite, certains de ces Européens vont commencer à avoir des émissions amateurs, à s'amuser, à produire des émissions. Et ensuite, on va avoir des émissions plus régulières qui sont très rapidement reprises sous l'autorité du gouvernement français. Donc ça commence en 1925 en Algérie avec la création de Radio Alger. Un peu plus tard, en 1928, on a la création de Radio Maroc, Rabat. Et finalement, Radio Tunis en 1938.
Radio Tunis présente Le Bœuf sur l'antenne, une émission réalisée pour Radio Tunis par Agnès Capri et Claude-Annette Calmont. Par ordre d'entrée en onde, vous entendrez José Arthur, Agnès Capri, au piano, Franz Loesgen et Edouard Sten.
Alors voici pour commencer une imitation de Louis Armstrong, On the Sunny Side of the Street. Grab her coat, get her husband. The war is not there.
Au début, la radio s'est réservée à un public très limité. Ça progresse petit à petit dans la population européenne, dans l'entre-deux-guerres, et assez rapidement chez, on va dire, les notables et les élites musulmanes qui ont les moyens de se payer une radio qui est aussi un symbole de statut. Avoir une radio à la maison, ça fait moderne, c'est technologique, ça permet de divertir les invités, c'est quand même un objet qui a du prestige. Très rapidement, ce qui se passe, c'est que les cafés dans lesquels déjà la population masculine, donc les hommes, vont pour se détendre, se divertir, mais aussi pour discuter, pour s'informer, pour lire les journaux, pour parler entre eux, qui sont donc des espaces très politiques. Les propriétaires des cafés vont investir et acheter un poste radio dans le café. Et on va écouter la radio collectivement au café. Et ça crée pas du tout les mêmes conditions. Parce que ça veut dire qu'on va discuter, on va commenter, on va interpréter. Et puis on va avoir du plaisir aussi ensemble à écouter de la musique, peut-être à danser, à chanter, d'une manière qui est très différente de quand on l'écoute tout seul à la maison. Dans les années 50, on va avoir vraiment une écoute de plus en plus massive. Parce que les postes deviennent moins chers. Et surtout, on a le développement de la radio transistor. avec des radios qui sont portables, qui marchent à pile, qui sont plus petites et qui sont beaucoup moins chères. Et ça, ça va complètement transformer l'écoute et on va avoir des millions de postes en circulation. Et puis une écoute qui se diffuse dans plein de contextes, c'est-à-dire qu'on va pas juste écouter la radio au café ou à la maison, mais on va l'écouter dans la rue, dans la voiture, à la plage. Un journaliste français, Jean Lacouture, qui traversait le Maroc en 58 avec sa femme, il disait « quand on traverse une médina au Maroc, il y a tellement de radios qu'en fait on a l'impression qu'on peut marcher d'un bout à l'autre de la ville en entendant de manière continue le même programme. C'est une sorte de fond sonore où on entend juste les émissions les unes après les autres. Ça devient vraiment le bruit de fond de toute la vie en fait, le matin, le midi, le soir. »
Je n'avais pas la radio à la maison.
Abdelaziz Kassem, ancien directeur de la radio-télévision tunisienne.
La radio, c'était dans mon village. Trois ou quatre familles possédaient un poste radio. Et j'allais chez les amis de mon père pour écouter. Je rentrais à la maison et je restituais les informations que j'avais écoutées en essayant d'imiter les voix, les speakers, les présentateurs. Et donc, l'engouement pour la radio, malgré le nombre insuffisant des postes, il y avait les cafés. Dans tous les cafés, il y a un poste radio ouvert tout le temps. Et donc les gens venaient consommer et écouter la radio. Les cafés d'antan, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc ou en Égypte, il y avait le conteur. Il y avait quelqu'un qui raconte.
La Sirat Bani Hlal ou l'épopée des Ilaliens, célèbre récit poétique transmis oralement, raconte la migration de la tribu des Bani Hlal de la péninsule arabique à l'Afrique du Nord.
Le conteur a été remplacé par la radio.
C'est par le développement de la radio que il va y avoir l'impression d'être un public national unifié et de pouvoir s'organiser collectivement autour d'une voix, autour d'un poste, et que les gens vont pouvoir s'imaginer, par exemple, faire partie du Maroc, de Tanger à Agadir en écoutant la même chose. Avant la radio, c'était pas vraiment possible d'imaginer ça, de s'imaginer vivre un moment collectif tous en même temps, d'écouter le même discours, le même match au même moment. Et les mouvements nationalistes et les régimes indépendants ont vraiment défendu cette conception de la radio. C'est par la radio qu'on va réussir à parler aux paysans, aux personnes illettrées, aux femmes, dans toutes les régions du pays, et d'avoir des projets communs, une culture commune, une éducation. On voit développement d'organisations politiques et de mobilisation de masse. Les partis, les manifestations, la lutte armée, qui vont mener aux indépendances et à la création d'États complètement différents. En fait, ce n'est pas une coïncidence qu'on ait une expansion de médias comme la radio et la décolonisation. Donc c'est pour ça que je pense que c'est des archives qui sont particulièrement intéressantes, parce qu'en fait, là, on est dans le collectif, comment ça marche le collectif? Comment on arrive à créer des nations à partir de gens qui ont été très divisés par le colonialisme et où les conditions pour se réunir étaient très compliquées?
<t'en>
En commençant à travailler à France Culture, j'ai constaté qu'il y avait des archives radiophoniques de Radio Alger à l'époque coloniale, qui sont aujourd'hui à l'INA. Et donc c'est très étrange pour moi de tomber sur ces éléments radiophoniques qui sont principalement des éléments radiophoniques en français à l'adresse de toute la population, mais plus particulièrement évidemment de la population européenne. Et je me suis demandé qu'est-ce que ça signifiait que ces archives soient aujourd'hui en France et non pas en Algérie, alors même que c'est l'histoire radiophonique du territoire algérien.
Radio Alger, quand elle a été créée dans les années 20 par le gouvernement français, c'est géré par le gouvernement français. Ensuite, ça a été repris par la RTF, donc la radio-télévision française d'État à l'époque, monopole, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les autorités françaises considèrent que c'est eux qui ont produit ces émissions. Et donc que les archives leur appartiennent. Et ça, ça fait partie d'un problème plus large. Il y a un grand débat entre les autorités françaises et algériennes autour de à qui appartiennent ces archives, parce que l'État français va dire, c'est nous qui étions l'autorité, donc c'est nous qui avons créé ces archives, donc elles nous appartiennent, et les Algériens disent, elles nous reviennent, parce qu'on était sous occupation, en quelque sorte.
Alors Paris, je répète mes consignes, cette bande est à remettre personnellement à Monsieur Gérard. Je répète, à remettre personnellement à Monsieur Gérard. Je compte. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Devant les récentes décisions prises par les représentants du pouvoir colonial.
Les archives coloniales sont diverses. Registres d'état civil, archives d'institutions publiques, documents militaires classés secret défense. Dans l'océan du passé colonial, les archives radiophoniques sont pour le moins méconnues. Elles sont pourtant tout aussi diverses. Émissions musicales, émissions relatant la vie quotidienne des colons, premières émissions radiophoniques en arabe ou en kabyle, ou encore, comme vous l'entendez ici, émissions pirates de l'organisation terroriste tristement célèbre, l'OAS, en 1961.
Union, discipline, courage, tous unis au sein de l'OAS, nous combattrons et nous vaincrons.
Dans un premier temps, il faut rappeler que bien avant juillet 1962, bien avant les négociations d'Évian mars 1962, dès la fin de 1961, début de l'année 62, des cargaisons entières de navires ont emporté des archives françaises installées en Algérie. En France.
Dao Djarbal, historien.
Donc, déjà dans la perspective d'une indépendance de l'Algérie, l'État français a pris des dispositions pour s'emparer des archives produites et déposées en Algérie. J'insiste sur ce point, produites et installées en Algérie. Parce que du point de vue du droit, la nationalité de l'archive, c'est la nationalité du pays où elle a été produite. Que la France considère que l'Algérie, c'était un morceau de la France, plus France que la France, c'est sans l'affaire. Mais l'Algérie, c'était l'Algérie occupée, colonisée. C'était, qu'on le veuille ou non, l'Algérie, le territoire algérien. Et donc, il y a la territorialité des archives. Il y a aussi des pans entiers de ces archives qui sont mis sous réserve. Et à ce moment-là, l'accès à ces archives est limité, sinon interdit. Donc, y compris par les Français, c'est-à-dire que les Français eux-mêmes n'ont pas eu accès pendant très longtemps et continuent pour certaines de ces archives de ne pas avoir accès du fait que ça pose des problèmes juridiques ou éthiques extrêmement importants. De la participation des unités de l'armée française au bombardement napalm d'un certain nombre de Deshra, de Meshta, de l'exécution sommaire de détenus, arrêtés indifféremment, qu'ils soient dans la résistance, porteurs d'armes ou non, ou d'exactions innommables des autorités françaises contre les Algériens. Donc il y a un problème qui se pose aujourd'hui.
Les directeurs de l'organisation armée secrète communiquent. Le général d'armée Raoul Salan est tombé ce matin entre les mains des forces gaullistes. Le général Raoul Salan devait participer prochainement à une très importante réunion du Conseil national de la Résistance, groupant plusieurs personnalités de métropole et de l'Algérie. Mais le général Salan voulait auparavant parachever l'œuvre de réorganisation.
Quand j'ai travaillé pour mon dernier livre sur les ratonnades à Alger en 1956, qui sont des ratonnades accompagnant les obsèques d'un leader Algérie française qui a été tué par les nationalistes.
Sylvie Thénault, historienne.
La découverte de la bande-son a été vraiment éclairante pour moi. J'ai retrouvé quelques minutes d'un flash à Paris Inter, pas grand-chose. Mais j'ai découvert ce flash d'abord parce que, à force d'aller à la BNF, je cherchais des images, puis on m'a dit « Vous avez pensé à la radio ?» J'ai dit non, et là je tombe dessus.
La fièvre monte sans cesse, surtout chez certains jeunes gens vraisemblablement étudiants. Beaucoup d'amis du président Froger sont venus de Boufarik, localité dont il était maire depuis une trentaine d'années.
Ce flash info de Paris Inter, quand je travaillais sur les ratonnades, il a complété les représentations de l'événement que je m'étais forgé. Dans tous les récits écrits de ces ratonnades, on dit qu'il pleut. Voilà, ça peut sembler banal l'information sur le fait qu'il pleuve. Mais quand vous écoutez, vous entendez les voix, vous entendez l'ambiance de l'humidité, ça s'entend. Et ce qui était le plus impressionnant pour moi, c'était d'entendre les slogans. Parce qu'en fait, ces ratonnades, elles ont eu lieu dans un contexte où il y avait l'idée d'une forme de vengeance à l'aveugle, vengeance après l'attentat, s'exerçant contre tout dit musulman à l'époque, se trouvant malheureusement pour lui ou pour elle sur le passage du cortège. Et dans toutes les sources écrites, j'ai vu des articles de presse ou des archives de police, on dit que les participants aux obsèques scandent des slogans du type « Algérie française »,« Abba Coty », enfin les responsables politiques de l'époque ou administratifs, « L'armée au pouvoir », mais il y a aussi « Exécuter les assassins », à mort les Arabes, et là, les slogans, je les entendais.
À mort les terroristes !
Alors là, on va rencontrer Kmar Bendana, qui est une historienne de la Tunisie contemporaine, et on est à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, à Tunis.
Je m'appelle Kmar Bendana, je suis professeure d'histoire contemporaine à l'Université de la Manouba. Et ma spécialité, c'est l'histoire culturelle, en tout cas l'histoire de la culture en Tunisie sous plusieurs aspects. J'ai fait toute ma vie professionnelle quasiment dans un projet d'archives qui a été créé en 1979 à la demande du gouvernement tunisien. Il y avait Bourguiba à l'époque et son historiographe Mohamed Sayeh qui se sont adressés au gouvernement français pour demander les archives de la période coloniale en Tunisie pour écrire l'histoire de la Tunisie. Et il en a résulté un projet qui n'a pas son équivalent ni en Algérie ni au Maroc. Pas en Algérie à cause des problèmes, les tensions très fortes entre l'Algérie et la France et l'histoire différente. Et le Maroc aussi qui s'est inspiré de l'expérience tunisienne mais dernièrement pour s'occuper de ses archives. Ce qui fait qu'on a eu les archives françaises. Alors, on ne peut pas dire qu'on les a eues toutes, parce que ça coûtait très cher à la Tunisie. C'est la Tunisie qui payait ça, évidemment, à la France. Et c'est bien ce que les Algériens refusaient, puisque eux, leur doctrine, c'est à nous, rendez-nous ce qui nous appartient. Alors que le Bourguiba a dit, c'est notre histoire, écrivons-la, on va l'acheter. C'était un geste, une sorte de geste de souveraineté différent, politiquement différent. Donc nous avons eu des copies, et nous avons payé les copies. Je peux en être témoin.
Ça ne vous a pas révolté que la Tunisie ait acheté
son histoire.
Vous allez me trouver niaise, mais moi j'étais fière que la Tunisie paye.
Pourquoi ?
Parce que pour moi c'était un geste politique. Mais je le dis avec les mots d'aujourd'hui, c'est-à-dire ça ne m'a pas choquée, mais j'étais fière d'être dans ce projet où on écrivait l'histoire de la Tunisie et on l'a payée. Bon, maintenant je suis moins naïve, moins niaise, je trouve ça un peu fort de café. Mais à l'époque, non. Des fois, pour prendre le pas sur l'injustice, il faut être plus fort que les injustes. Leur jeter à la figure ce qu'ils veulent. Maintenant, je serai moins admirative, plus consciente du marché de dupes. Je trouve que le gouvernement français était un peu cynique, quand même. Que des archives existent localement, c'est bien. Mais on ne va pas non plus dépenser des milliards pour les restituer, etc. Je suis assez pragmatique. Mais moi, je pense que ces déplacements de matériel, etc., je pense que ça peut être symboliquement important. Mais moi, je n'y crois pas en tant qu'historienne, en tant que professionnelle. Ce qui me semble important, c'est que l'information circule. Et si l'information qui est dedans circule, est accessible à tout le monde, à égalité, de tous les pays, eh ben c'est le pays le plus riche qui paye ça. Et pourquoi pas ? Ça peut être une source d'équité. Et la France peut payer les moyens d'exploiter cette archive coloniale et de l'ouvrir à tout le monde. Bravo, je souscris.
C'est une question qui est en négociation entre l'État algérien et l'État français, et pas d'aujourd'hui, depuis très longtemps. Et je peux dire que le fait est que le problème des archives, ce n'est pas seulement de leur propriété, ce n'est pas seulement de celui du lieu de leur dépôt, mais c'est celui de l'accès. Et celui de l'accès aux archives est politique. Que ce soit en France ou en Algérie.
La radio m'a beaucoup appris. D'abord, tout ce que je sais en chanson. Je chante mal, mais je sais les chansons. Et moi, ça a constitué ma culture musicale, alors que je n'ai pas de formation musicale. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. C'était le habib, ya habib, ya aghla min rouhi ou dami. يا حنينة وكلك في بالي يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة ما شاء الله تفوها C'est la chanson de la fête des mères.
C'est avant la chanson de la fête des mères.
On la mettra celle-là. Mais la vraie, pas ma voix.
C'était le Maghreb des ondes, un enjeu colonial. Avec Arthur Asseraf, Abdelaziz Kassem, Dao Djerbal, Sylvie Teno et Kmar Mendana. À suivre. Deuxième épisode du Café au Poste.